l'étude de l'épopée missionnaire. Le 19e siècle est par excellence le siècle des missions. On peut parler du siècle des missions dans ce sens que c'est un élan missionnaire qui n'a d'équivalent à aucune autre époque de l'histoire, même si on peut parler ainsi dans les premiers siècles de l'Église. Bien que l'Église des premiers siècles ait été très missionnaire, elle n'avait pas les moyens de répandre l'Évangile dans une sphère aussi importante, une sphère géographique aussi importante que ce ne fut le cas pour l'Église du XIXe siècle. Et la marque du XIXe siècle, plus que les réveils qui s'y sont manifestés, c'est essentiellement justement cet élan missionnaire sans précédent. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que l'essentiel de cet élan missionnaire a été le fait des Anglo-Saxons, anglais et américains essentiellement. Ces Anglo-Saxons ont fourni à eux seuls les 4/5 des missionnaires qui ont évangélisé donc le monde qui n'avait pas encore été atteint par l'Évangile pendant justement le 19e siècle. L'épopée missionnaire du 19e siècle commence un peu avant le 19e proprement dit, avec William Carey, qui est celui qui donne cet élan nouveau à la mission. Et on peut dire qu'il s'achève, pour ce qui est du 19e siècle, bien entendu, qui ne veut pas dire que le 20e siècle n'a pas non plus vu une certaine expansion missionnaire, ça on aura l'occasion d'y revenir, mais disons, l'élan missionnaire qui a été celui du 19e, on peut dire qu'il s'achève en fait en 1914, au moment où éclate la première guerre mondiale, la Grande Guerre. Maintenant, quand nous parlons de missionnaires anglo-saxons, nous parlons essentiellement de missionnaires protestants. Ce qui est aussi remarquable, c'est que si le 19e siècle a été le siècle des missions pour le monde protestant, il l'a été dans une proportion quasiment identique pour le catholicisme. Tant il est vrai que nous constatons à ce point de vue-là une loi, en quelque sorte, que nous avons déjà rencontrée dans bien d'autres domaines de l'histoire de l'Église, c'est que l'Église catholique et les Églises protestantes connaissent les mêmes types de problèmes et les mêmes types d'avancées, les mêmes types de succès et les mêmes types d'échecs, aux mêmes époques. Ce qui atteint l'un atteint l'autre. Il y a une communauté de destin en ce qui concerne les deux branches de la chrétienté qui n'est pas voulu, bien entendu, qui n'est pas recherché, mais qu'on constate simplement dans les faits. Voilà, si vous voulez, ça c'est d'abord quelques généralités. L'élan missionnaire donc a été marqué essentiellement par la redécouverte de ce qu'on appelle la Grande Commission. La Grande Commission, c'est le texte de Matthieu 28 par lequel se termine l'évangile du même nom, où Jésus donc donne avant son départ au ciel ses dernières instructions à ses disciples en leur disant « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». À tout le couméné, n'est-ce pas? Et une chose est sûre, n'est-ce pas? C'est que si les premiers siècles ont été missionnaires, on peut dire qu'il y a eu un élan missionnaire quasiment ininterrompu jusqu'au XIe siècle. C'est au XIe siècle, avec l'évangélisation des Saxons et des peuples scandinaves, que l'élan missionnaire a pris fin. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les frontières de la chrétienté qui vont se fixer pratiquement pour des siècles au XIe siècle font que la chrétienté, jusqu'au XIXe siècle, le christianisme, est essentiellement un phénomène européen. C'est l'Europe qui est évangélisée, et en dehors de l'Europe, il y a peu d'autres élans missionnaires. Disons qu'il faut nuancer cela quand même. Ça, c'est un petit peu lapidaire, voire même caricatural, dans ce sens qu'il y a des tentatives d'évangélisation qui ont lieu, par exemple, en Chine, au Japon, avec des gens comme Saint-François-Xavier, ou des gens comme ça, mais c'est quand même ténu dans ce sens que le succès va être très 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 moyen de ces, et ça ne changera pas véritablement le rapport des forces. Un autre facteur qui va bloquer l'élan missionnaire à cette période-là, c'est l'islam. L'islam va encercler l'Europe et séparer, alors évidemment stériliser pour l'évangile, des peuples qui auraient pu être évangélisés, voire même justement les reconquérir sur des peuples qui avaient été autrefois chrétiens, par exemple l'Afrique du Nord ou toute une grande, la majeure partie de l'Espagne pendant tout un temps. Tant et si bien que l'effort du christianisme, de la chrétienté, sera plus un effort de maintien de ses positions contre l'islam, voire parfois à la pointe de l'épée, notamment au travers des croisades. Les croisades aussi, c'est un phénomène parfois mal apprécié, et qui avait aussi une certaine cohérence, même si on peut la discuter, n'est-ce pas? Il y a un deuxième élan missionnaire à partir du 15e siècle, 16e siècle, au moment des grandes découvertes. Les Amériques, les Amériques qui sont découvertes à cette période-là, vont être un terrain d'évangélisation, à la fois, encore une fois, pour le catholicisme et pour le protestantisme. Le catholicisme évangélisant, entre guillemets, l'Amérique du Sud, au travers des deux grandes puissances catholiques qui se partagent l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et la réforme qui vient de naître à ce moment-là, on peut pas dire évangélisant, il n'y a pas eu une vision missionnaire, mais enfin, disons, colonisant et créant donc en Amérique du Nord disons des États protestants, quoi. Des États protestants. Par exemple, alors que le but de la conquête de l'Amérique du Sud par les puissances catholiques avait pour but à avouer de faire de ces gens-là des chrétiens, par la force d'ailleurs, à la pointe de l'épée. C'était un petit peu les méthodes d'évangélisation de l'islam, où vous convertissez, où on vous tue. C'était à peu près ça. D'ailleurs, même quand ils se convertissaient, on les tuait quand même. Donc il y a eu là une évangélisation, entre guillemets, extrêmement discutable. Et c'est pourquoi, dans un point de vue biblique, on ne peut pas considérer que ce que les catholiques considèrent comme l'élan missionnaire du 15e siècle, 16e siècle, soit véritablement un élan missionnaire. Il y a eu une christianisation, une catholicisation de surface de peuples qui sont restés païens dans l'âme. Et le fait que le catholicisme ait été très superficiel dans ces pays-là apparaît dans notre siècle, justement, alors que soit il y a une déchristianisation prodigieusement rapide de ces pays, soit alors une protestantisation qui est aussi extrêmement rapide. L'Amérique du Nord, au niveau des missionnaires, des protestants, les protestants n'avaient pas d'esprit missionnaire. Et les tentatives d'évangéliser les Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, seront extrêmement ténues, extrêmement peu nombreuses. Là aussi, ce sera plus l'épée, n'est-ce pas, qui aura le dernier mot que l'amour de Dieu et l'évangile véritable. Donc on ne peut pas véritablement considérer ça comme l'élan missionnaire. C'est pourquoi on peut dire quand même que il y a arrêt, n'est-ce pas? Coup d'arrêt avec l'islam de l'évangélisation du monde. Finalement, les pays d'Amérique vont entrer dans l'orbite de l'Occident, et notamment l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord ne sera, en fin de compte, qu'une extension de l'Europe. Bon, les choses changent avec Zinzendorf au XVIIe siècle. Là, nous avons véritablement, au XVIIIe siècle, je veux dire, nous avons véritablement un élan missionnaire authentique et réel. C'est pourquoi on peut dire que là, Zinzendorf est vraiment le précurseur des missions. Mais évidemment, il faut attendre William Carey, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait un grand élan missionnaire qui va viser l'Inde, un pays qui n'avait jamais encore été évangélisé et qui, plus est, avait une culture qui était une culture de haut niveau, y compris une culture religieuse de haut niveau, qui n'était pas un pays primitif comme l'étaient les pays autrement, n'est-ce pas? Et alors, bon, nous avons vu l'œuvre de William Carey dans l'étude du siècle précédent, mais il a eu des collaborateurs et des continuateurs, par exemple à Calcutta, un homme comme il s'appelait Rémy Martin, qui est arrivé qui est arrivé en 1806 à Calcutta et qui est mort en 1813 en retournant à Londres, qui a traduit le Nouveau Testament dans une des langues vernaculaires. Il faut citer aussi le premier évêque catholique de l'Inde, Thomas Middleton, qui est arrivé en 1814 et qui a fondé un collège catholique à Calcutta. Et puis alors, là, maintenant, le 19e siècle est un tournant sur un autre plan. D'abord parce que la civilisation occidentale, chrétienne, entre guillemets, européenne, va atteindre un progrès technique inégalé. Et ce progrès technique lui permet d'imposer au monde sa souveraineté, au monde entier. Et il faut remarquer que l'expansion missionnaire du 19e siècle coïncide avec l'expansion coloniale européenne du même siècle. Et que les deux phénomènes, non seulement sont contemporains, mais également s'expliquent l'un par l'autre. C'est parce que les puissances occidentales ont fait passer sous leur domination l'essentiel de ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde, que ces derniers ont pu être ouverts à l'action des missionnaires européens. C'est le cas, par exemple, des pays qui jusqu'alors auraient été dans la mouvance islamique et qui, étant passés justement sous protectorat européen, ont dû, bon gré mal gré, ouvrir leurs portes aux missionnaires occidentaux, ce qu'ils n'auraient jamais fait en d'autres temps. C'est parce que les puissances européennes ont imposé leurs lois au tiers-monde, qu'ils ont imposé à des pays comme l'Inde, par exemple, justement, ou bien la Chine, l'entrée de missionnaires qui auraient été interdits de séjour, vu l'idéologie et la religion de ces pays-là, si ces gens-là n'avaient pas été contraints de le faire par la domination des Blancs. Alors, on peut dire, n'est-ce pas, que cette situation a vraisemblablement été voulue par Dieu. Dieu conduit les choses, n'est-ce pas, pour la gloire de son nom. Mais il est vrai aussi que cette coïncidence entre le colonialisme et l'élan missionnaire a eu des effets pervers, notamment justement au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que je disais que l'élan missionnaire du 19e siècle dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais après la Première Guerre mondiale, quand les pays du tiers-monde se rendent compte que l'Occident s'est lancé dans une abominable boucherie et dans une guerre civile qui était contraire à tout ce qu'elle avait enseigné au travers de ses missionnaires, eh bien, le doute s'est installé non seulement dans les pays du tiers-monde, mais également en Europe elle-même, quant au bien fondé justement de l'action missionnaire. Et là, le XXe siècle, on aura l'occasion de le voir après, a été une remise en question du bien fondé de l'élan missionnaire. En tout cas, à cette époque-là, on ne se posait pas ces questions. Et l'entreprise coloniale n'était pas du tout quelque chose qui avait la mauvaise presse qu'elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, le terme de colonialisme et de colonialiste est une véritable injure, n'est-ce pas? Colonialiste, à cette époque-là, était quelque chose de positif. Je me souviens même au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans mon enfance, c'était tout à fait une entreprise remarquable que le colonialisme. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'était faire sortir les peuples barbares, les peuples arriérés de l'obscurantisme qui était le leur, c'était leur apporter les bienfaits de notre civilisation occidentale. Les colons et les colonialistes étaient donc des philanthropes qui avaient essentiellement pour but la promotion économique, sociale, médicale et donc spirituelle des populations autochtones. Et par conséquent, il y avait toute une justification morale de l'entreprise colonialiste qui n'était absolument pas remise en question et qui venait du sentiment qu'avait la race blanche de sa supériorité par rapport aux autres races. Alors, tout n'était pas mauvais, car de fait, il y a eu un certain nombre de gens qui ont eu cet esprit-là. C'est vrai qu'il y a eu aussi un apport très positif, si on veut faire le jugement du le procès du colonialisme, c'est pas blanc et noir. Hein. C'est en nuance. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du franchement pas bon, il y a du très bon, il y a du sublime, il y a tout. Hein. Et même les élites africaines actuelles reconnaissent que bien, l'arrivée des Blancs a parfois été bénéfique, l'arrivée des Blancs a parfois mis fin à des guerres d'extermination tribale qui reprennent maintenant d'ailleurs depuis que les Blancs sont partis. C'est vrai qu'il y a eu un effort de création d'infrastructures sanitaires, d'enseignement, de gens qui sont toujours être motivés par des raisons spirituelles ou religieuses. Étaient quand même des gens qui avaient une certaine dimension altruiste. À côté de cela, il y a eu aussi, bien sûr, un désir d'exploitation, d'intérêt, de promotion commerciale, économique, de pillage économique de ces pays-là, qui a été reproché par ces mêmes pays à l'Occident avec raison. Les deux choses, si vous voulez, ont coexisté l'une à côté de l'autre. Hein. Et c'est pourquoi on ne peut pas non plus, sur le colonialisme, avoir un jugement sans nuance. En tout cas, le colonialisme a permis effectivement l'expansion missionnaire. Le christianisme a imposé donc sa volonté au monde de 1789, on pourrait dire à 1914, et le christianisme a été lié dans le tiers-monde à la croissance de la civilisation européenne. En 1800, au tournant du siècle, c'était absolument pas vrai de dire que le christianisme était une religion mondiale. L'ordre de Jésus, aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création, n'avait pas été réalisé. Et en 1800, malgré les premiers balbutiements de l'élan missionnaire, avec William Carré, comme nous disions tout à l'heure, il n'était pas du tout évident que le christianisme, en un siècle, allait devenir une religion mondiale. Le siècle précédent avait vu l'échec de tentatives déjà d'évangélisation de l'Inde, par exemple, de l'Afrique tropicale. Il y avait eu des tentatives aussi d'évangélisation qui avaient échoué au siècle dernier. Et elles avaient échoué tout simplement parce que l'Europe était trop faible pour pouvoir entreprendre cette tâche. C'est seulement à la fin du siècle, du XVIIe siècle, où il y a un accroissement important de la population européenne, que l'entreprise peut être envisagée. Maintenant, l'entreprise a aussi été considérablement handicapée par l'état de division de l'Europe, les guerres endémiques qui l'ont marquée aussi pendant toute cette période, de guerre napoléonienne, de la Révolution, et j'en passe et des meilleurs. Ce qui est certain, n'est-ce pas, c'est qu'on ne peut pas séparer l'histoire religieuse de l'histoire générale. Enfin, ça, je crois que Dieu agit dans l'histoire générale, et bon, les choses sont ainsi, n'est-ce pas? Les changements économiques qui ont permis l'expansion coloniale, les changements technologiques, je veux dire, c'est essentiellement l'invention de la machine à vapeur, donc qui coïncide justement avec le siècle. Et alors, cette extraordinaire expansion technologique fait que l'Europe a le sentiment, même en dehors de la sphère religieuse, d'être investie d'une mission vis-à-vis du reste du monde. C'est aussi l'époque où, précisément pour cette même raison, parce qu'on a maintenant les moyens techniques de voyager dans des conditions plus faciles, eh bien, il y a un grand élan d'exploration qui commence. Cet élan commence avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1799, et soudain, l'Europe redécouvre qu'il y a autre chose en dehors de ses frontières. Finalement, pour beaucoup d'Européens, jusqu'alors, le monde, c'était les frontières de l'Europe. Au-delà de l'Europe, il y avait des pays mal connus, enfin l'Europe et l'Amérique, quoi, hein, c'était l'Occident. Mais en dehors de cela, le reste du monde était un monde mal connu, où végétaient des barbares vivant à l'âge de pierre, etc., etc. Et à partir de cette période-là, il y a un nouvel élan d'exploration semblable à celui qui avait lieu au moment des grandes découvertes. Par exemple, ça se caractérise par le mirage de l'Orient qui, lorsque Bonaparte revient d'Égypte, n'est-ce pas, toute la France et l'Europe se passionnent pour l'Orient, pour l'islam, pour l'histoire, l'archéologie, etc. Et puis c'est aussi l'époque où le capitaine Cook va entreprendre ses fameux voyages dans le Pacifique. Et cette exploration du monde non encore exploré, n'est-ce pas? On va explorer les terres inconnues d'Afrique, du Moyen-Orient, les déserts de l'Asie centrale, et peut-être le fait des Russes, n'est-ce pas? C'est la grande colonisation russe aussi de l'Asie centrale qui donnera naissance ensuite aux Transsibériens, la création de ces vastes étendues, la colonisation de la Sibérie et toutes ces choses-là. Tout ça, c'était des pays qui étaient en friche, qui étaient inconnus, qui étaient étranges. Bon, l'Inde, on redécouvre l'Inde, il y a un mirage de l'Inde qui naît aussi à cette période-là. Bref, une espèce de véritable frénésie d'exploration, de connaissances. Et puis alors, bien entendu, cette exploration coïncide avec une expansion commerciale. On crée des comptoirs un peu partout en Inde, en Birmanie, à Ceylan. La France installe ses premiers comptoirs en Indochine. La Hollande installe des comptoirs en Indonésie. Le Japon se transforme en un État moderne. Il est le premier, c'est pas, à entrer dans la sphère occidentale tout en gardant sa culture ancestrale. Et il échappe ainsi au sort des autres pays. Il sera un des rares pays du tiers-monde à ne pas être colonisé par les Blancs. Et d'ailleurs à prendre la tête de la libération justement des peuples opprimés et des peuples colonisés. La guerre de 1945 et la guerre du Pacifique qui commence avec Pearl Harbor sera considérée par les peuples du tiers-monde, les peuples d'Asie en particulier, comme le signal d'une révolte généralisée contre l'homme blanc qui n'apparaît plus comme invincible, même si en dernier ressort il a le dernier mot contre le Japon. Mais enfin, l'homme blanc, la puissance blanche peut chanceler et ce sera le signal de la décolonisation en Extrême-Orient. Et puis c'est aussi l'époque où des pays qui ont été islamisés, mais qui ont été anciennement chrétiens, se libèrent. La Grèce et les Balkans en particulier, qui vont provoquer un recul de l'islam. Pour la première fois, donc, depuis 1517, depuis la deuxième vague d'expansion islamique, l'islam va être non seulement réduit sur la défensive, mais véritablement reculé. 1830, conquête de l'Algérie, la France s'empare de ce pays dans des fins d'ailleurs qui ne sont pas qui peuvent avoir une certaine légitimité. Il s'agissait de mettre fin aux expéditions des barbaresques qui écumaient les côtes du bassin nord de la Méditerranée, Espagne, France, Italie, Balkans, etc., et qui, jusqu'à la fin du XVIIIe, jusqu'au début du XIXe siècle, provoquaient des ravages terribles dans les populations du sud de l'Europe. Bien, la Grande-Bretagne pénètre, pousse ses pions en Égypte, l'Italie en Libye. En fin de compte, pendant le 19e siècle, la Méditerranée redevient le Mare Nostrum, un lac occidental, un lac chrétien, si vous voulez. Et puis alors, c'est la pénétration en Afrique, la redécouverte de l'Afrique et automatiquement sa division entre la France et la Grande-Bretagne, qui sont les deux grandes puissances qui vont se diviser l'Afrique, avec une petite part à d'autres pays, un peu à l'Italie, un peu à l'Allemagne, mais essentiellement, ce sont ces deux pays. À partir de 1870, l'Allemagne voudra aussi avoir sa part du gâteau colonial, et ce sera d'ailleurs une des raisons qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale. Le démembrement des empires occidentaux. Et bon, l'Allemagne n'a plus que des miettes à ramasser. Le gros du colonialisme, le gros du partage a été fait. Finalement, l'Allemagne ne pourra s'emparer que du Togo, du Cameroun, de ce qu'on appelait à cette époque-là le sud-ouest africain, qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, et puis le Tanganyika, qui est actuellement Zimbabwe, quelque chose comme ça. La Belgique parvient à s'emparer du Congo, et là c'est quand même un très très gros morceau, n'est-ce pas? Et là alors le colonialisme belge va être un des pires, n'est-ce pas? D'ailleurs c'est un colonialisme catholique, il aura pour but essentiellement le profit. Je me souviens par exemple qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, de nombreux Belges partaient, n'est-ce pas, quelques années au Congo, et puis revenait quelques années après, fortune faite, quoi, ça n'y a pas de problème. Congo était enfin, ce qui est aujourd'hui, ça s'appelle le Congo, je crois d'ailleurs. C'est revenu Congo, oui. Après s'être appelé le Zaïre, le Congo était et est encore un pays extrêmement riche, au point de vue richesse naturelle et choses semblables. Et la Belgique s'est conduite d'une manière absolument odieuse. Les pires colonialismes qui soient, c'était le colonialisme belge. Et d'ailleurs, le fait que le Congo soit, depuis sa libération en 1960, dans un état de guerre endémique permanent, quasiment permanent, n'est-ce pas, montre à quel point la colonisation belge a été catastrophique, à l'inverse de ce qui s'est passé dans d'autres pays qui étaient occupés par la France ou par la Grande-Bretagne, et où quand même il y a eu un souci un peu plus important du bien-être des autochtones que les Belges, eux, n'en ont eu aucun. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, ensuite, l'Éthiopie, qui était un État indépendant, mais qui sera aussi l'objet des convoitises de l'Italie. L'Italie, qui aussi, après sa réunification en 1866, va elle aussi vouloir jouer un rôle dans ce domaine-là. Et puis, on aura une colonisation qui va s'étendre dans les îles du Pacifique et même jusqu'à l'Antarctique. Donc, comme je disais tout à l'heure, le bilan du colonialisme n'est pas entièrement négatif. Aujourd'hui, pour bien des gens qui ont été culpabilisés, si vous voulez, l'Occident a une culpabilisation par rapport au colonialisme qu'il faut relativiser. Il y a, de fait, je disais il y a un instant, des épisodes du colonialisme dont l'Occident a véritablement à rougir, à commencer par la traite des esclaves qui avait précédé le 19e siècle, n'est-ce pas? Mais de fait, il y a eu des pillages des richesses de ces pays-là, des enrichissements scandaleux comme ceux que j'évoquais il y a un instant. Mais à côté de cela, n'est-ce pas, l'Occident a développé une espèce de complexe. Une espèce de complexe qui vient de plusieurs mythes. D'abord, le mythe du bon sauvage. Le mythe du bon sauvage de Rousseau. L'idée que, somme toute, l'Occident, qui, après ces deux guerres mondiales, a pris la mesure du fiasco, en quelque sorte, de sa civilisation, de cette civilisation qu'elle entendait exporter. Alors finalement, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a eu raison de vouloir exporter notre civilisation au peuple du tiers-monde si c'était pour nous-mêmes déjà arrivé à une telle catastrophe? Et est-ce qu'il aurait mieux, il aurait mieux valu laisser ces gens-là dans leur état de bons sauvages, n'est-ce pas? Au moins, ils n'auraient pas été gâtés par les méfaits de notre civilisation. Et maintenant, c'est le colonialiste est quelqu'un qui a fait disparaître le bon sauvage. Comme disait un spécialiste de ces questions, on oublie simplement qu'une seule chose, c'est que le bon sauvage qu'on a soi-disant éliminé avec notre civilisation était quand même un anthropophage essentiellement. Alors, de là à dire que c'était un bon sauvage, comme disait cet homme, quand il s'est trouvé dans une île du Pacifique, il était invité par un chef à un repas, et alors le chef servait une viande, oh, dit l'ami qui nous parlait, dit, c'est excellent cette viande. Oh, oui, dit le chef, c'est exactement la même consistance que la chair d'un jeune enfant. Donc c'était en 87 par là, quelque chose comme ça, quoi. Vous voyez, en 1887, les vieux chefs se souviennent du goût de la chair d'un jeune enfant. Bon, c'est le bon sauvage, quoi, hein. C'est ça, le bon sauvage. Alors, le bon sauvage n'était pas si bon que ça, et quand il mangeait pas ses ennemis, il les éliminait dans des raffinements de cruauté assez dramatiques. Alors, à cause de cette espèce de culpabilité qu'a l'Occident, n'est-ce pas, et en même temps, l'Occident est aussi honteuse de sa richesse par rapport à la misère du tiers-monde. D'un côté, n'est-ce pas, l'Occident ne veut pas prendre les moyens d'une aide au tiers-monde qui soit une aide véritable, donc qui l'amènerait, elle, à faire un effort important de redistribution des richesses, etc. Et alors, pour continuer à vivre, si vous voulez, de sa richesse sans s'occuper des misères du tiers-monde, eh bien, il s'auto-accuse en disant ben, « nous sommes des gens abominables, des colonialistes ». On bat sa coulpe sur le compte des générations qui nous ont précédés, ces abominables colonialistes. Mais nous, n'est-ce pas, nous avons décolonisé, etc. Bon. Il y a tout un sentiment trouble là qui demanderait à être analysé, mais enfin, je passe à notre sujet ce soir. Et alors, dans ce contexte-là, l'évangélisation de ces pays-là est considérée aujourd'hui par cette espèce de, comment dirais-je, une espèce de mauvaise conscience à l'eau de rose, si j'ose dire, comme l'imposition d'une culture étrangère. En fait, l'aventure missionnaire n'a pas été cela du tout. Ça, je crois qu'il faut le dire avec force. Elle l'a parfois été, enfin, dans des cas rares. Ça a été un des chapitres les plus glorieux de toute l'histoire de l'Église. Au début du siècle, l'Église catholique, entre autres, était en plein désarroi. C'était après la Révolution française. Et elle a connu, donc, au début du 19e siècle, nous avons vu un renouveau interne, et aussi un élan missionnaire. La majorité des missionnaires catholiques venaient de France, de Belgique, de Hollande et d'Irlande, donc les pays catholiques de l'Europe. Il y a eu ensuite aussi le même phénomène chez les orthodoxes. Après la libération des Balkans, il y a eu un réveil chez les orthodoxes. Pierre le Grand, tsar de toutes les Russies, a favorisé ce réveil. Et il y a eu aussi un effort missionnaire de la part des orthodoxes qui s'est porté vers les populations de l'Asie centrale qu'ils étaient en train de coloniser. Dans le monde protestant, le réveil en Suisse, dans les premières années du siècle, a provoqué un zèle missionnaire protestant en France, en Suisse, en Angleterre, bien évidemment, à partir de 1792, a été créée la London Missionary Society, qui n'était pas lié à une dénomination, mais qui était interdénominationnelle, mais qui était quand même essentiellement le fait d'église évangélique. En 1804, a été fondée la London and Foreign Bible Society, société biblique londonienne et étrangère, qui se proposait de traduire la Bible dans toutes les langues possibles, dans toutes les langues ou des pays dans lesquels se rendaient les missionnaires pour y répandre la parole de Dieu. Et ça a été une aide extraordinaire pour les missionnaires. Le fait de pouvoir disposer relativement rapidement de Bibles dans les langues vernaculaires des pays qu'ils allaient évangéliser a contribué pour une grande part à la diffusion de l'Évangile et a permis justement des succès infiniment plus grands du côté protestant que du côté catholique parce que précisément le catholicisme avait moins de zèle à répandre la Bible que le protestantisme. En 1810, se crée aux États-Unis the American Board of Foreign Missions, le comité américain des missions étrangères, qui lui aussi, comme son homologue londonien, était interdénominationnel. Et a démarré à cette époque-là un effort qui ne s'est pas ralenti. Dans le même temps aussi a eu lieu, toujours à ce siècle-là, l'indépendance de l'Amérique du Sud. À la suite d'une période de déclin de l'Espagne, les colonies d'Amérique du Sud se sont émancipées les unes après les autres. Le Brésil, lui, ne s'est pas divisé en un certain nombre d'États, comme c'était le cas pour l'Empire espagnol. Il restait une entité unique, mais lui aussi a fini par s'émanciper de la mère patrie, tant et si bien que ces pays, jusqu'alors où régnait l'Inquisition, et qui par conséquent étaient entièrement fermés à l'Évangile véritable, soudain se sont ouverts devant les missionnaires protestants. Et l'American Board of Foreign Missions en particulier a commencé un travail en Amérique du Sud. Ça a été ses premiers objectifs, étant aussi entendu que l'Amérique du Nord avait favorisé, voire même suscité, la révolte des colonies espagnoles contre la mère patrie. Et c'est alors que le président Monroe avait édité sa fameuse doctrine, qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la doctrine de Monroe, au travers du slogan bien connu, l'Amérique aux Américains. Les États-Unis sont intervenus directement contre l'Espagne pour amener cette dernière à abandonner ses colonies, la fameuse guerre de Cuba en particulier, au cours de laquelle la flotte espagnole a été écrasée par la flotte américaine, la flotte des États-Unis. Et donc, il y a eu possibilité donc, d'évangélisation de ces pays qui étaient alors fermés. Mais alors, il y a un problème qui s'est posé immédiatement. C'était la division du protestantisme. L'Amérique du Sud était habituée à quelque chose de monolithique. Le catholicisme a été désorienté devant la diversité, justement, des origines des missionnaires qui venaient l'évangéliser. Maintenant, il est certain aussi que les États les États coloniaux, les États colonialistes, ont favorisé l'entreprise missionnaire, mais essentiellement au mieux de leurs intérêts immédiats. Il est certain que les puissances coloniales avaient intérêt à favoriser, par exemple, toute l'œuvre sociale des missionnaires. La création de dispensaires, la création d'écoles, de réseaux comme ça, c'était autant de choses que l'État n'avait pas à prendre en charge, n'est-ce pas, et c'était des fonds privés, en quelque sorte, qui prenaient en charge la création de ces infrastructures-là. D'autre part aussi, certains missionnaires ont été utilisés, manipulés, alors qu'ils étaient de bonne foi, n'est-ce pas, par les puissances pour des raisons qui n'étaient pas directement spirituelles, mais qui avaient des buts politiques. Par exemple, un homme comme Livingstone, qui était un homme de Dieu absolument remarquable, a été aussi un explorateur qui a découvert notamment les chutes du Zambèze, vous connaissez tout cela, et qui a aidé sans le vouloir, ou peut-être même en le voulant jusqu'à un certain point, l'implantation de l'Angleterre dans toute cette région de l'Afrique orientale. On pourrait multiplier des exemples. Bon, l'Église catholique française, les Pères Blancs qui ont été créés pour l'évangélisation de l'Afrique à cette période-là, notamment ceux qui ont agi au Congo, on parlait tout à l'heure, ont été des auxiliaires volontaires, disciplinés, n'est-ce pas, de l'implantation de la domination française ou belge dans ces pays-là, quoi. Alors, il y avait donc toujours un danger de confusion entre la religion et la politique. En 1824, le secret à Berlin, la société d'évangélisation berlinoise. En 1815, les Suisses créent la mission de Bâle. En 1822, les protestants français créent la mission évangélique de Paris, qui est aujourd'hui le DEFAP, mais qui a évangélisé l'Afrique, a évangélisé Madagascar, qui a évangélisé Tahiti, etc., et d'autres régions qui étaient passées sous domination française. En 1810, a lieu une première conférence missionnaire internationale au Cap pour essayer justement de coordonner l'élan missionnaire des pays, des missions protestantes. Néanmoins, à la fin d'un siècle plus tard, à peu près en 1910, l'essentiel du monde avait été évangélisé. En un siècle, l'essentiel a été évangélisé. Ne restait véritablement fermé à l'évangile en 1910 que des pays comme l'Afghanistan, le Tibet ou le Népal. Mais partout ailleurs, il y avait eu un témoignage de l'évangile qui avait été donné. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et à la fin du siècle, la Bible était traduite dans la plupart des langues. Ça veut dire que il y avait bien encore du travail à faire, il y en a encore aujourd'hui. Mais enfin, disons que les langues les plus parlées avaient des Bibles dans leur langue, si bien que pratiquement tout être humain avait la possibilité d'avoir la possibilité de lire la Bible. Alors, ce qui a été aussi une marque de l'élan missionnaire du XIXe siècle, c'est que évangélisation et éducation ont été souvent associées d'une manière très étroite. On évangélisait, mais on éduquait aussi. Et une station missionnaire typique du XIXe siècle comprenait d'abord une église, deuxièmement une école, et troisièmement un dispensaire ou un hôpital. C'était les trois axes, les trois directions sur lesquelles se faisait la mission. Évangéliser, donc proclamer la bonne nouvelle, c'était la chose première. Éduquer ensuite, d'une éducation générale, mais essentiellement éduquer les gens pour qu'ils puissent lire la Bible. Finalement, c'est toujours la démarche normale, hein, c'était la démarche des protestants du XVIe siècle, c'était la démarche des Vaudois, c'était la démarche de Zinzendorf. Et puis, on ne peut pas non plus se désintéresser des misères des gens. Si tu vois ton frère qui est dans le besoin, tu lui dis que Dieu te bénisse, chauffe-toi et mange, etc., puis tu ne donnes pas ce dont il a besoin, tu fais pas ce que tu dois faire, dit l'apôtre Jacques, hein. Alors donc, création de dispensaires et de centres de soins où on pouvait donc soigner les misères temporelles cette fois-ci des gens. Alors, il y a eu finalement trois types de missionnaires. Le pasteur missionnaire, l'instituteur ou l'institutrice missionnaire, et très vite des femmes, n'est-ce pas, se sont engagés dans le travail missionnaire et ont joué un rôle extraordinaire et extrêmement important. La part des femmes dans l'élan missionnaire doit être soulignée très fort. Et puis, le médecin missionnaire ou l'infirmière missionnaire, c'était les trois types de missions qu'il y avait au XIXe siècle. Par exemple, à Calcutta, entre 1830 et 1848, on a créé une université protestante, n'est-ce pas? Ce fut le cas aussi à Beyrouth, qui est une université américaine qui existe toujours là-bas. On a créé des écoles pour aveugles, pour sourds, pour handicapés. En Inde, John Thomas avait déjà accompli cette mission aussi pour le compte de William Carey. En 1819, à Ceylan, un travail du même ordre a été accompli. Même chose en Chine en 1835 par Peter Parker. En Inde, Butler aussi, qui n'est pas le même que Butler que celui que nous connaissons, n'est-ce pas, a entrepris un travail social du même type. Et donc, des femmes ont non seulement été institutrices, infirmières et autres, mais parfois aussi ont travaillé dans l'implantation d'imprimeries, de secrétariats, voire même d'industries, etc. Création de journaux, de choses comme ça. Il y a eu tout un travail absolument remarquable à côté du travail d'évangélisation proprement dit. Donc, c'est au milieu du siècle que protestants et catholiques, d'ailleurs aussi, ont commencé à envoyer des femmes en mission. Et là où les protestants ont eu du succès, les catholiques l'ont eu aussi. Là où les protestants se sont cassés les dents, les catholiques se sont cassés les dents aussi et vice-versa. Voyez-vous, il y a cette espèce d'étrange communauté de destin donc, que nous soulignions tout à l'heure et qui s'est trouvée réalisée là. On a constaté que là où les populations étaient les plus primitives, c'est là que les plus grands succès ont été enregistrés. Là où il y avait des populations plus évoluées, l'évangélisation était beaucoup plus difficile. Par exemple, en Inde, en Chine, qui avait des philosophies assez élaborées, l'évangélisation était infiniment plus difficile, tant pour les uns que pour les autres. Par exemple, en Inde, en 30 ans, il y a eu, parmi les forts missionnaires, a touché essentiellement 1 million d'intouchables. 1 million d'intouchables se sont convertis en 30 ans. C'était intouchable. Les classes supérieures de l'Inde n'ont pas bougé, ou peu bougé, en tout cas par rapport à ces gens-là qui n'avaient plus rien à perdre. En Afrique, c'était souvent des tribus entières qui se convertissaient quand le chef se convertissait. Il suffisait de toucher le chef pour qu'il se convertisse, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'évangélisation de l'Europe. Lorsque l'évangile est arrivé, par exemple en Bretagne, ça a été le même phénomène chez les Saxons, en Scandinavie, en Irlande, en Écosse, tout ça, ça a été à peu près le même phénomène. Dès le début du siècle aussi, il y a eu un élan commercial qui a eu lieu. Et là, c'est ce qui a été le côté négatif, c'est que précisément cette vision de la supériorité de l'homme blanc, qui n'était pas discutée à cette période-là, pas supériorité, comment dirais-je, raciale, comme le pensait Hitler, quoi, hein, génétique, mais par sa civilisation, par son histoire, par sa vocation, par la mission que Dieu lui avait confiée, la race blanche, était évidemment supérieure aux races noires, aux races jaunes. Ça c'était pas remis en cause, c'était un dogme qui n'était pas du tout remis en cause. Et alors, on a gardé les populations même converties dans un état de subordination. Et ça a été justement ce qui a été l'effet pervers de cet état d'esprit occidental. Et alors, les missionnaires qui étaient animés de cet esprit, parce que c'était l'esprit de leur peuple et que, ma foi, ils baignaient dedans, ce qui montre combien, justement, nous devons aussi ne jamais rien considérer comme allant de soi, eh bien, s'imaginer qu'ils étaient là pour toujours. Ils n'ont pas eu la vision, n'est-ce pas, de créer une église indigène qui s'auto-administrerait, qui susciterait de son propre sein ses propres ministres, n'est-ce pas, et puis qui prendrait la relève des missionnaires quand le rôle des missionnaires serait achevé. Il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale, et surtout la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour que cette idée fasse lentement son chemin, justement, dans la mentalité des missionnaires. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, quand il y avait des troubles, par exemple politiques ou autres, les nationaux apostasiaient en masse. Autant ils avaient accueilli l'évangile avec facilité, autant ensuite ils ont apostasié. Et par exemple, en 1914, au moment où s'est déclenchée la Première Guerre mondiale, il n'y avait en Afrique, dans les populations qui avaient été évangélisées par l'Église catholique, pas un seul évêque indigène. Tous les évêques africains étaient des blancs. Alors ça vous donne une idée de la mentalité qu'il y avait à cette époque-là. Mais dès 1854, des voix se sont élevées, mais en Europe même, pour contester cet état de fait. Et plusieurs ont osé dire que les missionnaires étaient là-bas aussi longtemps que c'était nécessaire, mais que dès qu'une église serait établie sur place, eh bien, les missionnaires n'avaient plus qu'à partir et rentrer chez eux. Mais ça, même les pouvoirs politiques ne le concevaient pas, parce que le missionnaire était un instrument du pouvoir blanc sur les États du tiers-monde, n'est-ce pas? Il est vrai que les premières tentatives de laisser les indigènes se débrouiller tout seuls, c'est souvent terminé par des échecs retentissants. Et alors, finalement, à la fin du siècle et au début du XXe, on a élaboré un système mixte où missionnaires et nationaux travailleraient ensemble sur un pied d'égalité. Ça, c'est évidemment la sagesse. Mais au départ, les missionnaires étaient fermés à cette idée-là, quoi. C'est aussi l'époque où on essaie de sensibiliser les églises à l'élan missionnaire. Et on crée des réunions missionnaires, des conventions, des rallyes missionnaires. Par exemple, un certain Hélier a créé des hymnes déjà à l'époque du réveil méthodiste, à la fin de la vie de Wesley, n'est-ce pas, invitant le peuple à porter l'évangile aux extrémités de la terre, par exemple dans le recueil des ailes de la foi, vous avez toutes sortes de cantiques qui ont été créées dans cette mouvance-là, par exemple au moment du réveil de Genève, par César Malan ou d'autres, qui appellent à évangéliser le monde entier, finalement même un cantique qui est dans le réveil du Pays de Galles en 1905, que torrent d'amour, c'est pas que partout se répand ce fleuve. Il y a eu une implantation relativement rapide d'églises qui ont eu ce statut mixte, parce que c'était les plus anciennes églises qui ont été fondées, le réveil de William Carey, et dès 1816, l'Église anglicane a admis l'idée qu'il puisse y avoir, sinon des évêques, du moins des pasteurs, enfin ce qu'on appelle même dans l'Église anglicane des prêtres, qui pouvaient être d'origine indienne, et notamment de gens qui étaient issus de vieilles chrétientés, par exemple les chrétiens syriens, syriaques, n'est-ce pas, qui auraient été évangélisés par l'apôtre Thomas tout à fait dans les premiers siècles de l'Église et qui ont été le tremplin de départ justement d'un certain nombre de missions qui ont eu lieu dans le sud de l'Inde. Mais il est certain que la question du leadership des églises, des jeunes églises qui ont été créées là-bas, a toujours été un problème extrêmement délicat et est encore jusqu'à aujourd'hui un peu un problème moins délicat, mais quand même qui se pose. Alors, un nouvel élan de l'évangélisation de l'Inde a eu lieu en 1830. Elle a eu pour auteur un certain Alexandre Duff, D-U-2-F. Et en 1806, l'Église d'Écosse, l'Église presbytérienne d'Écosse, elle a eu à cœur d'évangéliser les classes cultivées de l'Inde. Et alors, pour cela, ils ont créé des collèges, des écoles, et finalement, s'imaginant que l'éducation pouvait prendre la place de l'évangélisation. Ce fut l'échec. Ce fut l'échec au niveau de l'évangélisation, mais par contre, l'Église presbytérienne d'Écosse et les institutions qu'elle a fondées, les institutions d'enseignement, ont eu une grande influence sur l'Inde et ont été utilisées, il faut le dire, par le colonialisme anglais aussi pour étendre leur influence. Les indigènes ont provoqué des troubles qui ont parfois entraîné la fermeture de ces institutions, qui renaissaient d'ailleurs quand le tumulte avait cessé. Parfois même, si certains osaient se convertir, ils étaient kidnappés, voire mis à mort. Il y a eu de nombreux martyrs aussi pendant toute cette période de l'expansion missionnaire. À partir de 1833, pardon, en Inde, sont arrivés aussi des missionnaires américains, notamment à Bombay, puis des Suisses, la mission de Bâle, et enfin, à partir de 1860, des Allemands. Mais ces gens-là, qui ne s'entendaient pas toujours très bien, ont eu un très mauvais témoignage. Leurs querelles ont particulièrement choqué les Indiens et ça a été très, très négatif sur le plan de l'évangélisation. Partout, les missionnaires se sont entre-déchirés, soit les différentes dénominations protestantes entre elles, soit catholiques protestants. Ça a eu des effets négatifs et pervers. Et l'œcuménisme, qu'on est en train de célébrer cette semaine, n'est-ce pas? L'œcuménisme est né sur le champ missionnaire. Quand, au début du siècle, les missionnaires se sont rendus compte que leurs querelles étaient finalement extrêmement négatives. Et alors, ils ont créé une conférence missionnaire qui avait pour but justement d'harmoniser un petit peu les violents et de faire en sorte qu'il y ait un modus vivendi minimum qui fasse que l'évangélisation ne soit pas entravée par les querelles de clochers qui pouvaient diviser les dénominations entre elles. En Inde, en 1851, il y avait déjà 389 missionnaires dans toute l'Inde, répartis en 19 sociétés missionnaires, et qui avaient réussi à toucher 900 000 Indiens, 900 000 convertis qui existaient déjà. C'était quand même considérable. Bien sûr, l'Inde était un immense pays, mais quand même, 1 million de chrétiens, c'était déjà extraordinaire. En 1857, a eu lieu une mutinerie des Indiens de la vallée du Gange contre les missionnaires et 36 missionnaires ont été massacrés. C'était assez fréquent des choses comme ça. Alors, un autre élément très négatif qui est pour l'évangélisation de cette période-là, ça a été la fameuse guerre de l'opium qui a marqué la Chine. Les Anglais ont favorisé le commerce de l'opium pour des raisons économiques et politiques, et les Chinois se sont révoltés contre les Anglais pour mettre fin justement à ce commerce de l'opium. Et en 1842, un traité entre l'Angleterre et la Chine qui a été signé à Nankin a mis fin à la guerre de l'opium. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'Hong Kong est devenue colonie anglaise jusqu'à il y a peu. Et l'Angleterre s'est fait attribuer un certain nombre de concessions dites internationales qui étaient autant de centres non seulement du colonialisme occidental, mais de l'opium, enfin du commerce de l'opium qui continuait de cette manière-là. Alors ces concessions internationales étaient Shanghai, Canton et Hangzhou, essentiellement. Seulement, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que ce traité de Nankin, parmi les clauses du traité de Nankin qui autorisait en quelque sorte les marchands anglais à faire commerce de l'opium sur le territoire de la Chine et d'en faire des comptoirs là, dans ces concessions internationales, il y avait une clause aussi qui stipulait que les missionnaires auraient le droit d'évangéliser tout le territoire de la Chine. Et cette guerre de l'opium, qui est une tragédie épouvantable, une abomination de l'Occident par rapport à la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, a ouvert la Chine à l'évangélisation des Blancs, quoi. Et l'extraordinaire aventure d'Hudson Taylor, sur laquelle on aura l'occasion de revenir, est d'une certaine manière la conséquence de ça, quoi. Enfin, c'est les ambiguïtés de l'aventure coloniale, quoi. Bon, le Seigneur s'est servi de ça, certainement, d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ça a eu son effet pervers, parce que Blanc a été assimilé avec cette abominable guerre de l'opium, enfin, etc. D'où, justement, lors de la tentative de Hudson Taylor de faire oublier qu'il était blanc. Il s'est, en quelque sorte, fondu dans la Chine jusqu'à se vêtir comme un Chinois, parler comme un Chinois, manger comme un Chinois, vivre comme un Chinois, oublier qu'il était anglais pour vivre véritablement comme un Chinois. C'est comme ça qu'il a percé, c'est comme ça qu'il a réussi. C'est sûr que les autres missionnaires sont entrés en Chine sur le pas des soldats. Mais ça a été le début de l'élan missionnaire en Chine quand même. En 1860, sont arrivés en Chine donc les premiers missionnaires. Et vu l'étendue du pays, il n'y a pas eu les problèmes qu'il y a eu dans d'autres lieux, notamment en Inde. La division des différents missionnaires entre eux ne s'est pas fait sentir tellement. Il y a eu par contre des gros problèmes de traduction de la Bible parce que les Occidentaux ont eu du mal à assimiler la langue chinoise. Et c'est en 1868, au moment du réveil du Canada, qu'un certain William Burns a été le premier à traduire la Bible en chinois. L'ambassadeur de Hollande en Corée a voulu évangéliser le pays, ce qui a causé un scandale. Et ça a été la tentative hollandaise coloniser, d'évangéliser la Corée a été le plus grand fiasco de l'histoire missionnaire du XIXe siècle. Mais ça a permis de prendre conscience d'un certain nombre de besoins. Alors, il nous faut évoquer ici la figure d'un certain nombre de grandes personnalités de missionnaires de cette période-là, d'apôtres, parce que là, c'était véritablement les apôtres au sens fort du terme, quoi. Bon, le premier d'entre eux, c'est Robert Morrison, 1872-1834, qui a été justement un des premiers missionnaires anglais en Chine pour le compte de la London Missionary Society. Donc, il est parti pour Canton en 1807 et il a évangélisé la Chine du Sud. C'était un Écossais qui était né dans le New Hampshire et il avait entendu l'appel de Dieu et se préparait au pastorat à Londres à l'âge de 22 ans quand l'année suivante, la London Missionary Society recherchait des missionnaires, les premiers missionnaires pour la Chine. Et Robert Morrison a senti que le Seigneur l'appelait dans ce pays. Il a étudié, outre la théologie, la médecine, parce qu'il était conscient qu'il aurait besoin aussi de cela, l'astronomie, je ne sais pas trop pourquoi, et le chinois, bien entendu. Bon, quand il est arrivé en Chine, ses connaissances de chinois étaient assez limitées, et il est resté à Canton pendant plusieurs mois, pour le moins, sinon plusieurs années, pour étudier le chinois en secret, car ses professeurs risquaient la mort. C'était encore avant la fameuse guerre de l'opium. Au bout de 18 mois, il maîtrisait suffisamment la langue chinoise pour être employé comme traducteur dans une compagnie marchande de l'époque. Et le même jour où il a été embauché, il a épousé une certaine Mary Norton, qu'il avait lui-même amené à la conversion d'ailleurs. Et alors, malgré l'opposition de sa compagnie, la compagnie qui l'employait, il s'est mis à prêcher l'évangile et à distribuer de la littérature en chinois. Il s'est mis à traduire la Bible en chinois. En 1819, il a terminé cette traduction, plus la traduction du catéchisme de l'Église d'Écosse et la Common Prayer Book de l'Église anglicane, plus il a publié un dictionnaire et une grammaire chinoise. Il s'est mis à fonder ensuite un collège à Hong Kong, un autre à Canton, et il a eu en 1817, après 7 ans d'efforts d'évangélisation, la joie de voir le premier converti chinois. 7 ans d'efforts, 7 ans d'évangélisation. En 1824, il a visité l'Angleterre, où il a tenté vainement de créer un intérêt pour l'évangélisation de la Chine. C'est alors que sa femme est morte, il s'est remarié peu après. Alors ça, c'est courant. Là, les missionnaires qui partaient dans le tiers-monde à cette période-là, avec femme et enfants, d'abord, on n'était pas sûr d'en revenir eux-mêmes. Beaucoup sont morts à la tâche, terrassés par la rudesse du climat, les conditions de vie, les conditions d'hygiène, etc. Et puis alors, ceux qui payaient le plus lourd tribut, c'était les enfants. Les enfants de missionnaires, un missionnaire qui partait avec sa famille était à peu près certain de laisser plusieurs de ses enfants en bas âge là-bas. Mourir, quoi. Ça, c'était quelque chose d'évident. Donc, c'était un grand sacrifice, c'était une grande consécration, et pour une femme aussi, qui souvent était constitution plus faible que les hommes, et qui payait un plus lourd tribut aussi, n'est-ce pas, à ces conditions rigoureuses de climat auxquelles les Occidentaux, à cette époque-là, n'étaient pas du tout habitués. Bon, il y avait des maladies comme la malaria, des maladies tropicales qui n'étaient pas maîtrisées, et qui faisaient que les Occidentaux étaient encore beaucoup plus sensibles que les Autochtones à ce genre d'affection, et mouraient comme des mouches. Alors, en 1826, les tensions entre Chinois et Anglais aboutissent à la première guerre anglo-chinoise et Morrison a tenté de jouer un rôle de conciliation entre les deux États et finalement il meurt à la tâche en 1834. En 1836, éclate une rébellion dans la province d'Hangzhou et le premier pasteur chinois qui s'est élevé pour le service de Dieu a été amené à apostasier. Avec ses fidèles, il est tombé dans le syncrétisme et a pris part à la révolte. Ensuite, contre le pouvoir chinois lui-même, qui était une dynastie mandchoue, qui était très affaiblie à cette période-là. Et alors, les missionnaires ont pris fait et cause dans les affaires intérieures de la Chine, pour ou contre l'empereur, etc. Enfin bon, ça a été des erreurs extrêmement lourdes de conséquences, n'est-ce pas, que cette ingérence dans les affaires intérieures de la Chine. En fait, en tentant de prendre parti pour telle secte, pour telle faction, contre telle autre, les missionnaires espéraient, comme l'avaient fait donc les premiers, toucher les chefs, obtenir la conversion d'un empereur, etc., et ainsi obtenir la conversion de la nation tout entière. Mais ils oubliaient que l'évangélisation, c'est quand même le 1 à 1 essentiellement. Finalement, après 50 ans de travail en Chine, les résultats dans ce pays, dans cet immense pays, étaient insignifiants, disons. C'était un petit peu ce qui s'était passé au moment du 15e siècle. Les missions catholiques s'étaient cassées les dents contre la Chine, et là, le résultat était pratiquement nul. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est donc la première partie de l'élan missionnaire en Chine. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?